Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Salut Louis Amar, bonjour à tous.
À la une, la F1, deuxième Grand Prix de la saison cet après-midi à Bahreïn et première pole pour Charles Leclerc. Le Monégasque a signé hier avec sa Ferrari le meilleur temps des qualifications au bout d'une séance impressionnante. On y revient longuement et on l'écoute dans quelques instants. Et puis à 13h40, Radio Paddock avec du WRC. C'est le dernier jour du rallye de Corse et de la moto. Grand Prix d'Argentine cet après-midi, c'est parti pour Motors, bienvenue. Adrien Tambay est avec nous. Salut Adrien.
Salut messieurs, salut Louis.
De la Dream Team RMC Sport. Et Lucas Vinois, en direct de Bahreïn, sur le circuit de Sakhir. Salut Lucas.
Salut Louis, salut Adrien, salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Salut.
Juste avant la Formule 1, c'est tout chaud, ça vient de se terminer. Dernière spéciale du Rallye de Corse. Aurélien Tirsin est sur place. Salut Aurélien.
Salut Louis, bonjour à tous. Et c'est pas encore tout à fait terminé, ça a pris un petit peu de retard aujourd'hui. Sébastien Ogier n'a pas terminé le Power Stage. Le Belge Thierry Neuville est en train de concourir et Elfyn Evans, qui pour l'instant mène le rallye, ne s'est pas encore élancé.
Merci Aurélien, on te retrouve tout à l'heure dans Radio Paddock pour les résultats complets de ce rallye de Corse. Il a 21 ans, il est monégasque, il roule en Ferrari et depuis hier, ce n'est plus le même homme. Charles Leclerc a signé à Bahreïn la première pole de sa carrière à 21 ans et 5 mois.
RMC Motors.
Attends, Charles c'est la pole verte, c'est bon. Il va le faire là maintenant, quelques secondes. Et Charles Leclerc, de toute façon, on voit pas qui peut aller chercher. Il est devant. Charles Leclerc signe la première pole position pour son deuxième Grand Prix chez Ferrari. C'est absolument formidable.
Comment grandissime.
Le tour de chauffe.
1 minute 27 secondes 866 millièmes. L'histoire retiendra ce chrono réussi en fin de qualification hier, Leclerc devant son équipier Sébastien Vettel de 2 dixièmes. Jean-Luc, même avec 24 heures de recul quasiment, c'est un immense coup qu'il a frappé hier, Charles Leclerc.
Bah écoute, selon l'expression consacrée, ça met les poils. Voilà, c'est vraiment ça, parce que c'est vraiment beaucoup d'émotions. Encore une fois, on va pas en faire trop dans le pathos. Hein. Je pense que lui a beaucoup de pression aujourd'hui. Il l'a dit lui-même juste après, avec l'extrême lucidité dont il fait preuve en toutes circonstances. Les points, c'est aujourd'hui. La pole ne rapporte rien. On rappelle quand même qu'il y a ce point supplémentaire en course. Et le connaissant, je pense que si c'est possible, il ira aussi, comme l'avait fait Bottas lors du dernier Grand Prix, le chercher. Bref, faut d'abord remporter ce Grand Prix, d'abord effectuer un très très bon départ, d'abord maîtriser la situation. On sait que Vettel ne lui fera évidemment pas de cadeau en partant sur la même ligne que la sienne.
On
a vu en Australie encore une fois que Bottas avait pris l'avantage sur Hamilton dans les premiers mètres, donc c'est possible. Et puis n'oublions quand même pas les Mercedes qui vont pas être loin, et on sait que Bottas, il vient de le démontrer, et Hamilton sont des concurrents extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que c'est le parcours parfait, puisque on l'avait souligné, dès les essais libres, Charles a été le plus rapide, on va dire globalement, à part la FP2 et Q1, Q2, Q3, le plus rapide en améliorant son temps. Jusque-là, le parcours est parfait.
Adrien, on t'a senti ému hier en commentant cette séance de qualification. Ému et surpris ou pas ?
Surpris, non, parce qu'on nous a demandé pendant tout l'hiver si Charles allait être capable de devancer Sébastien Vettel cette année et quand. Mais moi, j'étais sûr, et je pense que Jean-Luc aussi, on était sûr qu'il allait être au niveau d'entrée de jeu. Après, de là à le faire dès la deuxième course avec Ferrari, d'ailleurs, il y a un point commun avec mon papa et Chris Amon. C'est les trois pilotes seulement à avoir fait leur première pole position au deuxième Grand Prix avec la Scuderia Ferrari. Donc j'ai lu ça hier et c'est un clin d'œil assez sympa. J'ai un lien, comme tu disais Jean-Luc, on va pas faire dans le pathos, mais j'ai un lien spécial avec Charles Leclerc, parce que c'était le filleul de mon meilleur pote qui est décédé en Formule 1, Jules Bianchi, et qui aurait pu être dans cette position là
qui allait
arriver chez Ferrari. Et aujourd'hui c'est Charles qui qui fait le job et qui devance un quadruple champion du monde. On sait qu'il a perdu son papa aussi, qui était lui aussi coureur il y a quelques années de ça. Donc il y a beaucoup d'émotions et puis surtout c'est construit quoi. C'est un week-end pour l'instant de sa part plein de maturité exceptionnelle et il y a pas c'est pas la chance.
C'est, pas hasard,
c'est à chaque fois en qualif Q1, Q2, Q3 il le devance, il lui met le tarif de 3 dixièmes et c'est propre. Régulier quoi, c'est propre sans bavure.
De la maturité, du calme, voilà sans doute les deux principaux atouts en dehors de la piste de Charles Leclerc. Écoutez-le réagir hier à cette pole position. On est quelques minutes seulement après la qualification, désarmant de lucidité.
J'ai un petit peu d'émotion, après j'essaie de la mettre de côté encore une fois. Je pense que vous commencez à me connaître, je suis un peu comme ça. Surtout que malheureusement, il n'y a aucun point attribué à la pole position. Donc voilà, c'est un bon début, mais il faut finaliser tout ça demain. Et je vais essayer de bosser au max pour finaliser de la meilleure façon.
Lucas Villoin en direct de Bahreïn, c'est à ton micro que Charles Leclerc a eu ces mots. Comment tu l'as senti hier lorsque tu l'as vu arriver en zone mixte, en zone d'interview? Et puis décris-nous peut-être la folie qui a entouré justement son passage devant les médias.
Ben, un calme effarant, hein. Charles Leclerc, de toute façon, il est toujours extrêmement calme, extrêmement lucide, réservé de toute façon, hein. Il a toujours été comme ça depuis qu'il est arrivé en Formule 1, il ne s'emballe pas, alors que pourtant il a réalisé, comme vous le disiez, la première pole position de sa carrière au volant de la Scuderia Ferrari. Alors on était plus heureux que lui dans son team. On a vu son garage exploser de joie au moment où il a franchi la ligne et au moment où il était assuré de partir et de réussir justement cette pole position. Lui est resté plus calme. Il y a 50% selon lui du boulot qui a été fait. Les 50 autres pourcents, il reste à faire, et notamment prendre un bon départ. Il sait que ce sera la clé ici. C'est pour ça qu'hier il ne voulait pas encore trop s'emballer.
Et oui, ce calme. D'ailleurs, tu l'as souligné dès hier, Adrien, quand on a entendu sa radio à Charles Leclerc, où il a félicité son équipe, où il s'est réjoui de cette pole position, mais avec, encore une fois, beaucoup de sérénité, de tranquillité presque.
Mais c'est la marque des grands champions, je crois, que dès qu'un objectif est acquis, on regarde déjà le prochain. Et puis, il avait déjà été anticipé le prochain. Enfin, ça veut dire le résultat qu'il veut, lui, c'est gagner une course, une pole, c'est ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais c'est qu'une partie du boulot, et honnêtement, pour l'instant, c'est parfait. C'est aussi un point commun avec Jules Bianchi, cette lucidité. C'est pas quelqu'un qui a la grosse tête. C'est quelqu'un qui tout de suite se remet en question et qui va. Il sait qu'il doit bosser jusqu'au bout pour aller chercher ses objectifs. Pardon.
Jean-Luc, il faut rappeler que Bahreïn n'est peut-être pas le circuit où il est le mieux d'avoir la pole finalement, puisque c'est un circuit où l'on dépasse. Ça a son importance, ça a son incidence, oui. Mais c'est pas comme à Monaco ou à Singapour.
Oui, en plus il y a trois zones de DRS, ils en ont rajouté une troisième cette année. Donc effectivement, puis c'est un vrai circuit, il est permanent, même s'il n'y a pas beaucoup de compétition le reste de l'année. C'est pour ça que dès qu'on sort un peu de la trajectoire, il y a quand même du sable, du désert qui est apporté par le vent. Donc c'est un atout supplémentaire, je dirais, au moment du départ pour Charles, qui va devoir exploiter l'adhérence. Lui, il est sur la bonne trajectoire, chargé en gomme, etc. Maintenant, c'est pas aussi simple que je le dis, bien au contraire, mais il a 9 mètres d'avance sur son équipier Sébastien Vettel, qui lui va devoir croiser la piste et venir fermer. On va dire que si Charles prend un départ normal, en principe, il va virer en tête au premier virage et boucler le premier tour. Et après, il aura sa course à construire en ménageant les pneumatiques. Mais je rappelle également les GG tout à l'heure. Après, il y a une histoire de stratégie qui va jouer. L'homme de tête, eh bien, peut choisir sa stratégie. On est obligé de couvrir derrière. En d'autres termes, eh bien, si par exemple, on faisait arrêter, du coup, Vettel pour couvrir Charles Leclerc, qui de fait serait deuxième pilote, eh bien, on va obliger quelqu'un de chez Mercedes à s'arrêter aussi pour couvrir. Tu me suis.
Bien sûr.
Donc si tu veux, il y a un double, un triple avantage. Maintenant, on est déjà dans la stratégie, on va attendre les premiers mètres et le premier virage.
Adrien.
Ouais, de toute façon, c'est sa lucidité et son intelligence qui va lui donner il a les meilleures armes pour faire face à cette situation de pression extrême et ce départ. Mais il sait, ça fait 15 ans qu'il court dans d'autres catégories avec un volant, deux pédales, c'est la même chose. Ouais. Alors, il y a beaucoup plus de pression, mais les départs, il sait les prendre et je pense qu'il a la lucidité nécessaire pour aller virer en tête au premier virage.
Écoutez-le encore, Charles Leclerc. C'était hier la question qui lui est posée. Charles, qu'est-ce qui vous a donné le plus d'émotion, de signer chez Ferrari ou de réussir cette première pole? Écoutez-le.
Peut-être l'annonce chez Ferrari, parce que voilà, l'annonce chez Ferrari, c'est quelque chose qu'on s'y attend jamais, alors que quand on roule pour Ferrari, on a une voiture pour faire la pole position, donc voilà, même si c'est très compliqué, je classerai en avant la titularisation chez Ferrari.
Logique implacable.
Ouais, intelligent. maintenant, la victoire, ça sera peut-être autrement, parce que la pole, il s'y était quelque part préparé, c'était son objectif, il le savait qu'il était capable, et puis il le sait qu'il est capable d'aller gagner un Grand Prix. Donc voilà, c'est encore une fois la marque d'un grand champion.
Et moi, je peux déjà vous dire que si il remporte ce Grand Prix, eh bien, le message sera forcément émouvant, mais il dira déjà, maintenant, on va aller chercher le titre.
Mais
parce qu'effectivement, c'est très bien une victoire en Grand Prix. Mais
Il le dira peut-être pas, mais en tout cas, il le pensera.
Non, il dira, très fort. C'est un step important, mm-hmm. C'est une marche importante.
Mais ça n'est qu'une victoire.
Ça n'est qu'une victoire.
Lucas, à Bahreïn, les autres pilotes, et pas n'importe lesquels, ont eux aussi joint leur voix au concert de louanges, qui a retenti autour de Charles Leclerc.
Oui, bien évidemment, à commencer par Sébastien Vettel, son coéquipier qui franchement il est fair-play. Sébastien Vettel, il faut le souligner, il a quand même été battu par Charles Leclerc qui vient d'arriver dans l'écurie au bout de son deuxième Grand Prix. Il a été dominé pendant toute la séance de qualification et pourtant il a su se mettre de côté et mettre en avant la performance de Charles Leclerc. Alors il l'a dit tout de suite, hein, dès qu'il est arrivé aux essais de Barcelone, j'ai compris que Charles Leclerc était fait d'un autre métal et qu'il était capable de rouler très très vite. Il a une maturité qui est impressionnante. Pareil, quand Lewis Hamilton est sorti de sa monoplace, il est venu tout de suite féliciter Charles Leclerc. Quand même, Vettel, Hamilton, c'est 139 pole positions à eux deux. Donc quand vous avez 139 pole positions qui viennent vous féliciter d'avoir réalisé votre première pole position, ça veut quand même dire quelque chose.
L'onction des pairs, quand même.
Oui, là, c'est le plus important. Puis ils ont beaucoup de respect. D'ailleurs, on le voit bien dans les échanges également en conférence de presse, hein, quand ils se regardent.
Oui.
Là aussi, c'est
le
peut-être...
respect.
Voilà.
Les champions se reconnaissent.
Ils se reconnaissent.
Exactement. Ils se reniflent entre eux. C'est peut-être, ils se disent, lui, c'est un chef de meute aussi. Il est comme nous. Lui, il va devenir, effectivement, il va logiquement inscrire. Alors, je voulais juste rappeler que Charles, lorsqu'il est monté dans la Ferrari, à l'issue du Grand Prix de Hongrie l'an dernier, eh bien, il a signé le meilleur temps. Donc, je veux dire, là, celui qui pouvait déjà juger du potentiel de Charles au volant d'une Ferrari, eh bien, c'était Sébastien Vettel. Donc, lui aussi n'est pas surpris pour corroborer ce que disait Lucas et les réactions de Seb.
Charles Leclerc est donc le deuxième plus jeune poleman de l'histoire de la Formule 1, 21 ans et 5 mois, seulement 3 mois plus vieux que son équipier, Sébastien Vettel, qui avait signé sa première pole position avec Toro Rosso. Écoutez-le, le quadruple champion du monde, félicitez le jeune loup.
Depuis les essais hivernaux, je pense que c'est un bon garçon. Et maintenant, un bonhomme. Parce qu'avec une pole, vous devenez tout de suite un homme. Non, plus sérieusement, bravo à lui. C'est un accomplissement. C'est vrai que vous, normalement, vous regardez ce que vous avez fait de votre côté en premier. Et je ne suis pas satisfait de la façon dont les choses se sont passées. Mais dans ce genre de moment, il faut mettre ça de côté. Quand quelqu'un réalise sa première pole position, il a battu tout le monde. Et moi y compris, nous avons de bons espoirs pour demain. Nous partons devant et nous essaierons de faire une bonne course en terminant premier et deuxième.
Sébastien Vettel au micro de Lucas Vinoir. Adrien.
Beaucoup de respect de la part de Vettel, mais on sait que c'est un grand sportif aussi, hein. Il aime pas perdre, mais c'est un gentleman quand même, Sébastien Vettel. Après, ça doit être dur et c'est quelque part une première claque pour lui. On va voir comment il va être capable de réagir dès aujourd'hui en course et puis dans les prochaines courses, parce qu'il va devoir élever quand même son niveau de jeu. J'ai regardé un peu, j'ai analysé les caméras embarquées des deux pilotes depuis les essais de Barcelone, et je peux vous dire que quand on regarde la caméra embarquée de Charles Leclerc, le potentiel, il est encore grandissant. Il est pas en surconduite, pas à 105%, il est très propre, il sort un peu, il a encore de la marge à droite, à gauche, alors qu'un Sébastien Vettel, hier en qualification, je l'ai vu à la dérive, je l'ai vu sortir des virages avec ce qu'on appelle du power oversteer, avec du patinage du train arrière, vraiment à la limite de la surconduite. Donc ça montre vraiment que la bataille, elle va être rude, et pour Sébastien Vettel aussi.
Deux éléments très importants, me semble-t-il, à rappeler, c'est que le premier adversaire, c'est toujours l'équipier, donc puisqu'il dispose du même matériel, mais l'avantage d'avoir un Charles Leclerc, je pense, dans l'équipe, et pourtant on sait très bien que Sébastien Vettel a défendu la position de Kimi Raikkonen, qui était un équipier qui n'était pas encombrant,
non,
et il se doutait bien Vettel, que lorsque Leclerc allait arriver, il allait être encombrant, mais il aide à développer la voiture, il aide à faire progresser la voiture, et je pense qu'on manquait un peu de ça, je vais oser le dire. Alors c'est paradoxal de penser qu'un presque rookie, quelqu'un qui n'a fait que 23 Grands Prix, enfin qui décroche sa pole et arrive chez Ferrari, mais oui, c'est un metteur au point, c'est un pinailleur dans le bon sens du terme. Peut-être qu'il apporte quelque chose qui va bénéficier finalement à Vettel, parce qu'il bénéficiera d'une meilleure monoplace.
Et un regard frais. Parce qu'effectivement, un pilote comme Kimi Raikkonen, même s'il est très bon dans la mise au point, dans son ressenti, dans ce qu'il dit aux ingénieurs, il a vécu plein de changements de réglementation, plein de voitures différentes, de philosophies différentes, et il y a un moment donné où on peut se perdre. Il y a des moments où on préfère telle ou telle voiture, donc on a envie que la nouvelle ressemble à l'ancienne. Oui. Là, Charles Leclerc, il arrive, il est neuf, et la seule expérience qu'il a, c'est avec la Sauber Alfa Romeo. Il arrive direct dans une bonne voiture. Pour lui, la voiture, elle est bonne, et il s'applique à la régler de la meilleure des manières.
Et peut-être le dernier élément également, encore au sein de l'écurie, c'est que les deux pilotes vont se pousser. Ça n'était peut-être pas trop le cas avec Raikkonen, à part à Monza. Enfin, il y a quelques exceptions, on va en trouver plein. Mais surtout en fin de saison, quand Vettel avait fait ses erreurs, on va dire ça pudiquement, notamment en Allemagne. Donc on sentait bien que c'est pour ça aussi que ça a été dans le mauvais sens. Là, je pense que la dynamique, elle peut tirer vers le haut. Parce que le talent de Charles Leclerc et son potentiel de metteur au point va peut-être tirer Sébastien Vettel encore vers le haut. Et peut-être Vettel, 4 fois champion du monde, on a déjà conscience de ça.
Lucas, la stratégie de Ferrari cet après-midi va être extrêmement intéressante à observer. On se souvient qu'en Australie, c'est à Sébastien Vettel, logiquement, qu'avait été donnée la priorité. Et évidemment, on attend de voir ce qu'il en sera cet après-midi.
Oui, c'est pour ça que le départ va être extrêmement important. Celui qui sera en tête au premier virage et même en tête à la fin du premier tour bénéficiera de l'appui de l'écurie. Mattia Binotto l'a dit, de toute façon, en Australie, on a gelé les positions et on le refera s'il est nécessaire de le faire. On ne laissera pas les pilotes se battre en piste. On a trop peur de perdre des points. Ferrari n'a plus remporté le moindre titre depuis trop longtemps. On ne peut pas se permettre de prendre ce risque-là. Donc Leclerc va devoir prendre un bon départ, essayer de conserver la tête jusqu'à la fin du premier tour, et s'il est devant, normalement il aura l'appui de l'écurie et pourra aller cueillir sa première victoire ici à Bahreïn. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite.
Charles Leclerc en pole donc devant son équipier Sébastien Vettel, et dans l'affaire on oublierait presque un quintuple champion du monde, Lewis Hamilton en troisième position. On en parle dans un instant, mais d'abord écoutez-le, lui aussi hier extrêmement impressionné par les voitures rouges.
C'était une qualification excitante. Les Ferrari, comme vous l'avez vu, ont été incroyablement rapides depuis le début du week-end. Charles a fait du super boulot, donc félicitations à lui. Nous avons beaucoup progressé par rapport à nos performances pendant les séances d'essai de vendredi et samedi. Je suis vraiment content de la façon dont nous avons travaillé. Mais c'est vrai que les Ferrari étaient très véloces, notamment en ligne droite. C'est la raison pour laquelle nous avons perdu du temps tout au long du tour. Je ne sais pas, ils sont peut-être venus à Bahreïn avec un nouveau moteur ou un autre mode. Donc nous avons du travail, mais sur les longs relais, nous serons en mesure d'être plus proches.
Lewis Hamilton au micro de Lucas Vinois. Depuis le début du week-end, Adrien, Jean-Luc, Lucas, on observe quand même que les Ferrari sont supérieurs aux Mercedes. Est-ce qu'il y a dans la composition de la Mercedes quelque chose qui peut lui permettre de refaire ce retard en course ?
Compliqué de répondre à cette question, parce que tout simplement c'est en qualification qu'en Australie elles étaient au-dessus, et là même en qualification, si j'ose dire, elles sont derrière, donc ça va être difficile. Bon, les conditions sont très différentes de l'Australie, une fois de plus
on va rouler de nuit,
on les a vu quand même faire des simulations de long relais assez prometteurs en essai libre, donc il faut pas l'enterrer, et puis on sait que c'est une bête de course, Lewis Hamilton, donc si la stratégie est bonne, et encore une fois, si le départ le lui permet, il va aller se mêler à la bataille. Après, on voit quand même une Scuderia Ferrari qui est quand même solide cette année. J'avais envie de revenir sur Mattia Binotto, sur des déclarations qu'il a eues par rapport au premier Grand Prix.
Le nouveau patron de Ferrari, où il
se remettait en question. Sur un choix de ne pas faire rentrer Charles Leclerc pour aller faire le meilleur tour en course. Ça faisait longtemps que chez Ferrari, on se remettait pas en question comme ça. Et c'est un, même si c'est un monsieur de technique, Mattia Binotto à l'origine,
directeur technique,
ça montre qu'il est sportif, et ça montre qu'il a une approche différente chez Ferrari, et c'est peut-être la bonne année. Alors il est tôt pour le dire, mais j'ose espérer.
pour répondre en partie à ta question également, interrogation sur le niveau des Mercedes en course, on sait très bien que les Mercedes ont une capacité justement à préserver les pneumatiques, même si Hamilton ici ou là s'en est un peu plein, c'est-à-dire dès qu'il y a le moindre défaut, la voiture était tellement parfaitement équilibrée que en général, eh bien le défaut apparaît immédiatement. Il faut rappeler que Hamilton lui partira avec sa troisième position sur le bon côté de la piste également, la meilleure adhérence. Donc est-ce que, je pose la question, l'objectif en tout cas d'Hamilton, ce sera de devancer Vettel, donc de se trouver lui en mesure d'attaquer, si possible, le leader Charles Leclerc, si ça reste comme ça, et dans ce cas-là, Bottas attaquerait Vettel, enfin là je fais de la théorie, mais c'est très possible que ça se passe comme ça, et là on va voir un Grand Prix absolument formidable, parce que là justement, là on sera plus dans les Ferrari domine et Mercedes essaie de répondre au coup d'attaque, ce sera de l'attaque des deux côtés, et jusqu'au bout, parce que je rappelle aussi que Bottas, vu l'agressivité dont il a fait preuve lors du Grand Prix en Australie, et
il n'est pas loin.
Et le chrono qu'il a signé, exactement, ouais. Il n'est pas loin du tout. Il est sur les talons d'Hamilton. Donc c'est un Bottas remonté comme jamais. Encore une fois, c'est pas en 15 jours qu'il a changé de mentalité. Donc on va avoir une bagarre à 4 qui va être absolument fabuleuse.
Lucas, comment tu as senti les Mercedes hier? Est-ce qu'il y avait une forme de surprise à se voir distancé depuis le début du week-end par les Ferrari?
Oui, clairement. On savait en tout cas que le niveau de Ferrari, le niveau réel de la Scuderia Ferrari n'était pas celui affiché en Australie sur un circuit, on l'a dit maintes et maintes fois, particulier. Mais on était étonné de la capacité de Ferrari à repousser encore la limite après ce que Vettel et Leclerc avaient montré pendant les essais libres. Bottas l'a dit clairement, je ne pensais pas que Ferrari allait pouvoir encore augmenter le rythme. Nous, on savait qu'on en avait le sous le pied, mais eux aussi, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas été capables d'aller les chercher. Mais surtout, on a pointé du doigt le moteur. Toto Wolff dit qu'il y a 5 dixièmes qu'ils perdent Bottas et Hamilton à cause du moteur. On sait que c'est un circuit de moteur Bahreïn qui est un petit peu vallonné avec des grandes lignes droites, donc il faut que le moteur respire, il faut pouvoir aligner les chevaux, en tout cas comme on dit dans le jargon, et en tout cas à ce jeu-là, Mercedes se disait un petit peu inférieur à la Scuderia Ferrari.
Charles Leclerc, Sébastien Vettel en première ligne, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en deuxième, Max Verstappen, Kevin Magnussen 5e et 6e, 7e place pour Carlos Sainz, 8e pour Kimi Raikkonen, Lando Norris et Daniel Ricciardo complètent le top 10 dans un instant. Le Frenchies Corner pour évoquer Pierre Gasly, Romain Grosjean.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h27, bienvenue si vous nous rejoignez en direct dans Motors. On est ensemble jusqu'à 14h avec Jean-Luc Roy, avec Adrien Tandet et avec Lucas Vinoy en direct de Bahreïn, théâtre cet après-midi du deuxième Grand Prix de la saison. Départ 17h10, ça sera évidemment à suivre en direct sur RMC dans l'Intégral Sport. Du rallye également ce week-end, on en reparlera un petit peu plus longuement tout à l'heure dans Radio Paddock, mais Aurélien Tirsain est avec nous. Le rallye de Corse, la Power Stage est cette fois terminé. Aurélien, tu en as les résultats.
Et avec la belle deuxième place de Sébastien Ogier au classement final en Power Stage, il s'est classé cinquième et la crevaison du leader du rallye jusqu'ici Elfyn Evans a permis aux Français de monter sur la deuxième marche du podium derrière le Belge Thierry Neuville qui remporte donc ce rallye de Corse pour la deuxième fois de sa carrière. Sébastien Ogier deuxième et Elfyn Evans qui à cause de cette crevaison dans la Power Stage termine simplement troisième. Belle deuxième place en tout cas d'Ogier. Sébastien Loeb lui termine septième.
Merci Aurélien, on te retrouve tout à l'heure dans un quart d'heure dans Radio Paddock. En attendant, on revient à la F1 et on arrive à nos Français.
Oui.
RMC Motors, le French's Corner.
Oui, c'est une Marseillaise qui se dégonfle un peu, puisque on devait avoir un Français dans le top 10, et ben on n'en aura pas. C'était Romain Grosjean qui, à la régulière, a signé le 8e temps de la séance de qualification, mais qui a été pénalisé 2-3 places. Il s'élancera 11e pour avoir gêné Lando Norris en Q1. Décision logique, messieurs.
C'est toujours difficile de dire ça. Il était, oui, au milieu de la trajectoire. Alors, Romain prétend qu'il n'avait pas été averti par son équipe, ce qui est certainement vrai. Maintenant, il sait très bien qu'on est en tour de qualif et que lui allait se lancer. Effectivement, il préparait son lancement, mais il a gêné Lando Norris qui, bon, de fait, heureusement, s'est bien récupéré. Hein, et du coup, il va partir 9e. Mais c'est vrai qu'il a gêné Norris. Ça, on l'a vu sur les images.
Hein. Et soulignons que Norris a dit que c'était Vettel qui avait foutu un peu la zizanie dans tout ça. Parce que, vous savez, il y a un gentleman agreement entre les pilotes. On dit qu'on ne peut pas se dépasser avant le dernier virage sur un tour de lancement, qu'on respecte le gap, la distance qu'on a fait à l'autre pour préparer notre tour lancé. Et apparemment, Vettel est allé dépasser Grosjean à ce moment-là, ce qui a fait que Romain devait,
du coup, laisser de l'air
devait
par rapport à
ralentir
Vettel.
Encore plus et s'est retrouvé à bloquer Norris. Donc voilà, il y a...
Je crois qu'il y a eu un petit avertissement d'ailleurs à ce sujet, hein,
ouais.
Vettel.
Ouais,
un petit avertissement sans sanction, parce qu'on lui a dit t'aurais pas dû faire ça.
Pour autant, à l'issue de la séance, Romain Grosjean n'était pas mécontent de sa performance au micro de Lucas Vidot. Pas de Grosjean.
Très content en essai libre 3 et ce soir un petit peu moins bien la voiture, donc voilà, je pense que j'ai tiré honnêtement le maximum de ce que j'avais, c'est mon meilleur tour de la session, mais il en manque un peu par rapport à Kevin et par rapport à la McLaren qui va vite ici, donc il faut qu'on comprenne. Maintenant on sait que la course va être longue demain, il va y avoir beaucoup de dégradation des pneus, donc c'est là-dessus vraiment qu'on a essayé de se concentrer.
Et oui, parce que Lucas, mine de rien, on l'entend parler de Kevin. Kevin, c'est Kevin Magnussen, son équipier. Il en est assez loin, Romain Grosjean, sur la grille.
Ouais, il en est même très loin, trop loin. On sait que la bataille des équipiers c'est extrêmement important. Et Kevin Magnussen, il bat régulièrement quand même Romain Grosjean en qualification depuis la moitié de saison dernière. Pourtant, c'est un de ses points forts, hein, Romain Grosjean, l'exercice du tour rapide. Alors ça fait toujours un petit peu tâche, d'autant plus que Magnussen a marqué des points au premier Grand Prix. Lui n'en a pas marqué puisqu'il a abandonné. C'est vrai qu'il a joué de malchance avec la jante qui s'est cassée. Il a dû se retirer, mais il va falloir qu'il se reprenne, Romain Grosjean. Là, il y a la pénalité en plus, donc ça commence à faire beaucoup. Mais ce qui est rassurant, en tout cas, c'est que la Haas fonctionne du tonnerre ici sur ce circuit de Bahreïn, puisque Kevin Magnussen a quand même failli battre Max Verstappen. Il n'est qu'à 5 millièmes. Imaginez à la régulière une Haas qui aurait pu battre une Red Bull. Il faut remettre les choses en perspective. Et franchement, l'écurie américaine ici à Bahreïn fait des émules. C'est assez impressionnant pour tout vous dire. Tout le monde était bluffé hier de la performance des Haas. À commencer par Renault, on sait, hein, qui est adversaire principal de l'écurie américaine.
Jean-Luc, j'ai une petite remarque. Juste, quelle est la motorisation de la Haas?
Ça serait pas un Ferrari, par
exemple? Ça serait pas un Ferrari,
apparemment,
par hasard,
ouais,
avec un train arrière de Ferrari et peut-être d'autres petites choses autorisées, naturellement. Donc c'est clair. Alors ça fonctionne moins bien chez Alfa Romeo, il faut le dire. On l'a vu, mais ça fonctionne très très bien chez Haas. Donc apparemment, on sait parfaitement intégrer ça. Je pense que la cavalerie, le cavalino rampante, et il est plus brillant que jamais à Bahreïn.
Après, Haas dans sa lutte avec Renault, puisque c'était ça la bataille de la fin de la saison dernière dans le milieu du paquet, et ça risque de l'être encore cette saison. Le problème de cette écurie américaine, peut-être Adrien, c'est de ne pas pouvoir développer autant sa voiture tout au long de la saison qu'une équipe d'usine. Donc ça veut dire que quand une opportunité se présente de marquer des points, il faut le faire vite dans la saison.
C'est exactement ça, et il faut juste que la saison dernière ne se répète pas, et pour Romain Grosjean surtout. On se souviendra que pendant toute la première moitié de saison, il n'y avait que des déconvenus, que ça soit la faute de Romain ou la faute du team. Là, ça a commencé comme ça, hein, et ça a commencé de la même manière que l'année dernière.
Exactement.
Là, il a une pénalité à nouveau. On connaît Romain, on connaît aussi les travers qu'il peut avoir de temps en temps. Pour l'instant, il a l'air encore serein. Il faut faire une bonne course aujourd'hui pour lancer sa saison, marquer les premiers points et que ça parte sur le bon chemin.
Il y a une spirale, en tout cas pour lui, il est psychologiquement assez fragile, je crois qu'on peut le dire. Il l'a avoué publiquement, donc il voit une psy, comme on dit, je suis pas le seul. Bon, bien sûr, mais ça dénote pas effectivement une force de caractère évidente dans ce cas-là. Et la spirale, malheureusement, de l'échec et des problèmes, il faut qu'en course, il redresse la barre tout de suite, parce qu'on l'a vu en difficulté l'an dernier, il faudrait pas que ça reprenne le même chemin.
Romain Grosjean, qui s'élancera donc en 11e position, devant l'autre Français de la grille. Pourtant, on l'attendait avec sa Red Bull plus haut. Cet autre Français-là, c'est Pierre Gasly, qui se retrouve 13e. Lucas, Pierre Gasly a connu hier encore des problèmes avec sa Red Bull qu'il n'arrive pas vraiment pour l'instant à apprivoiser.
Il n'est pas à l'aise, tout simplement. Il a dit, il n'a pas évité le problème. Il ne se sent pas forcément à l'aise dans cette voiture. Un petit peu à l'instar de ce que vit Daniel Ricciardo chez Renault. Ils étaient très à l'aise dans la voiture anciennement, dans leur ancienne voiture. Et maintenant, ils ont une nouvelle. On sait que la position, par exemple, d'une voiture à l'autre, elle change pour un pilote. C'est pas pareil. La pédale d'accélérateur, la pédale de frein, ça va être plus dur. C'est pas Adrien qui va me contredire. Plus dur, plus tendre. Et donc, faut s'habituer à tout ça. Pour l'instant, il n'arrive pas vraiment à mettre les choses dans l'ordre. Il va falloir qu'il fasse une bonne course. Alors la voiture n'est pas très performante, Max Verstappen l'a dit, de toute façon il a beaucoup de mal à la gérer, le néerlandais. Elle glisse beaucoup, elle ne réagit pas comme il aurait envie, donc c'est ce qui est rassurant en tout cas pour Pierre Gasly, c'est que Max Verstappen n'est pas en train de gagner des courses actuellement avec la même monoplace. Lui aussi est un petit peu en difficulté. Maintenant Verstappen a plus d'expérience dans cette écurie, c'est la raison pour laquelle il s'en sort mieux. Pierre Gasly doit encore encore à prendre. Maintenant, il faut pas que ça prenne trop de temps non plus.
Mais oui, parce que évidemment, la pression n'est plus du tout la même que quand on est chez Toro Rosso. Chez Red Bull, il faut délivrer, comme disent les Anglais, comme disent Christian Horner notamment, deliver.
Ouais, il va pas avoir toute la saison, Pierre, pour apprendre. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que par rapport à l'Australie, où c'était une erreur du team en qualification, oui, qui le laissait bloquer en Q1 et où il était seulement à un dixième et demi, en quelque sorte, de Max Verstappen en qualification. Là, il est à 4 dixièmes et c'est régulier depuis le début du week-end. C'est un circuit classique qu'il connaît bien, où il est fort, parce qu'il a terminé quatrième avec Toro Rosso l'an dernier. Donc 4 dixièmes, c'est beaucoup en Formule 1. Et quand Lucas parle de petits ajustements, de position, je suis complètement d'accord avec Lucas, mais ça c'est pour jouer les dernières 2 centièmes sur un tour. Donc, quand on est un bon pilote, et Pierre en est un très très bon, la position, si on n'est pas très bien dans la voiture, c'est pas ça qui nous fait aller 4 dixièmes moins vite. Voilà.
Bah, là on a les deux Français finalement juste à l'extérieur du top 10, donc là ça va être la chasse aux points, hein, clairement, avec Romain Grosjean rétrogradé 11e et Pierre Gasly 13e. La monoplace, comme le soulignait Adrien et comme l'a dit Lucas, elle marche avec Verstappen, un podium d'entrée, et là il est tout à fait en mesure de faire un podium encore. Oui. Verstappen, nous l'avons dit, on va pas l'écarter comme ça, hein. Il part 5e en course, il est très fort, il a peur de rien, lui il dépasse même aux endroits où on peut pas, il dépasse Verstappen, et c'est son talent. Ben, Pierre doit être dans l'aspiration de Verstappen. On va oser dire que là l'objectif c'est d'être, allez, 7-8, pas plus. Donc de prendre des points significatifs pour l'équipe Red Bull. Sinon, eh bien, l'œil du docteur Helmut Marko va être braqué sur lui, et on sait que la pression, elle est terrible, effectivement. Comme tu dis, il doit délivrer.
Quand tu insistes, Adrien, sur ces 4 dixièmes, c'est quoi ton diagnostic là? Tu sais qu'il gamberge?
Non, c'est que il lui en manque un peu par rapport à Max Verstappen, je pense.
Mais ça serait dû à quoi? Mais ça pourrait être dû à quoi?
Il dit qu'il sent pas trop la voiture.
Honnêtement, voilà. De notre position, on sait à quel point la Formule 1 et le sport automobile est complexe. On sait à quel point chaque pilote travaille avec son ingénieur individuellement. Je suis pas capable aujourd'hui, à moins de parler avec Pierre, j'ai pas parlé avec Pierre, et je veux pas dire de bêtises. Peut-être que Pierre prend des directions différentes que Max.
D'ailleurs, ça il l'a dit, hein, qu'il avait des réglages totalement différents de ceux de Verstappen.
Avec ses réglages, peut-être que c'est là-dessus qu'il perd du temps. Peut-être que les voitures ne sont pas égales au niveau des réglages, parce qu'elles sont égales au niveau de la performance intrinsèque. Mais on ne sait pas si c'est, on sait pas si c'est un problème de mise au point de sa voiture, de compréhension du comportement qui est différent de celui de sa Toro Rosso l'année dernière, ou si c'est du pilotage pur. Je pense pas que ce soit du pilotage pur. Il s'est toujours battu avec Max Verstappen dans les catégories précédentes. Il est du niveau. Donc c'est sûrement ça. C'est sûrement s'habituer à ce comportement-là de cette voiture. On verra en course s'il est capable d'être comme Max Verstappen. Il a peut-être besoin de faire des tours. Hein.
Bah, c'est une évidence. De toute façon, il débarque dans cette équipe. On sait bien que c'était un deuxième choix. C'est pas du tout lui faire offense, puisque Ricciardo devait rester. Ricciardo, on va en parler dans un instant, je présume, est parti chez Renault. Avec rencontre pour le moment quelques soucis lui également. Son talent n'est pas à mettre en cause. Donc là aussi, je crois qu'avant de remettre en cause le pilote, comme le disait Adrien, il faut déjà laisser passer un tout petit peu de temps. Il peut y avoir effectivement des réglages qui ne sont pas adaptés à ce type de voiture. Alors là aussi, il faut rentrer dans le détail. Effectivement, est-ce qu'il l'aime légèrement plus sous-vireux, sur-vireuse? Enfin, il y a tout un tas de réglages à adopter quand même sur une Formule 1. C'est tellement complexe qu'effectivement, il suffit qu'il soit un peu fourvoyé dans une direction.
Et puis dans le Frenchies Corner, il nous faut aussi évoquer Renault, les deux Renault qui s'élanceront assez loin finalement. Ouais. Nico Hülkenberg 17e, Daniel Ricciardo réussit à monter dans le top 10, mais simplement à la faveur de la pénalité de Romain Grosjean, alors qu'il s'était classé 11e, Daniel Ricciardo des qualifications. Lucas, encore une séance difficile pour les Renault, à l'image de ce qu'ils ont vécu il y a 15 jours en Australie.
Oui, encore des problèmes, surtout problème de cartographie moteur pour les deux monoplaces. Alors Nico Hülkenberg n'a pas eu le temps de resetter, donc de remettre à zéro la cartographie moteur. C'est la raison pour laquelle il n'a même pas pu passer le cap de la Q1. Pour Daniel Ricciardo, on lui a donné une solution un petit peu un système D avec un bouton sur lequel il devait appuyer très régulièrement tous les 3 virages pour ne pas que le moteur se mette en mode sécurité, et donc il perdre des chevaux. Donc voilà, en tout cas ça n'allait pas hier niveau côté moteur, en tout cas pour Renault, et c'est la raison pour laquelle les performances sont en deçà du niveau de l'écurie au losange. Maintenant Ricciardo bénéficie quand même du choix de pneumatique, il va partir en 10e position, on sait qu'il est capable de dépasser, capable de prendre d'excellents départs. Alors, rythme de course, la Renault est pas trop mal non plus, même si on l'estime en dessous des As. En tout cas, c'est ce qu'on nous, ce que les ingénieurs de Renault nous confiaient tout à l'heure. Mais Renault devrait être capable d'aller chercher des points. Mais c'est sûr que sur les deux premières qualifications de l'année, ce n'est pas joli. En tout cas, c'est en deçà des espérances de l'écurie française.
Merci beaucoup, Lucas. Tu es libre d'aller voir Mick Schumacher, parce que je sais que c'est ça ta mission.
Mais Mick Schumacher, il est un peu en difficulté.
Il est parti
en pole position. Il s'est fait passer par Giotto, Camara, Latifi et De Vries. Il est cinquième et Deletra est en train de revenir sur lui. Donc c'est l'apprentissage pour Mick Schumacher, mais apprentissage un petit peu difficile quand même.
À tout à l'heure, Lucas. Tu seras évidemment au commentaire du Grand Prix de Bahreïn à 17h10 en direct sur RMC avec Jean-Luc et Adrien qui reste avec moi.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h45 sur RMC, bienvenue si vous nous rejoignez, Motors en direct avec Jean-Luc Roy, avec Adrien Tambay, on est ensemble jusqu'à 14h. À 14h vous retrouverez Christophe Cessieux pour l'intégral sport. Énorme programme cet après-midi, soyez bien avec nous, puisqu'en plus du Grand Prix de Bahreïn tout à l'heure à 17h10, 4 matchs de Ligue 1 cet après-midi, dont ceux de Monaco, Nice et Lille, et puis un quart de finale de Coupe d'Europe de rugby à 16h15 entre deux clubs français, deux aspirants à la victoire finale, le Racing 92 et Toulouse. En attendant, Motors se poursuit et Radio Paddock arrive.
RMC Motors.
World champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Il n'arrive jamais sans Benoît Boutron.
Eh oui. Salut, dès qu'il y a le jingle, j'accours.
Exactement.
Salut Louis, salut Adrien, salut Louis.
On parlera du rallye de Corse tout à l'heure. D'abord la moto, là aussi, c'est la deuxième manche du championnat du monde 2019. Ça se passe en Argentine, à Termas de Río Hondo.
Exactement, dans le nord de Buenos Aires, un circuit assez court finalement. C'est moins de 5 km, 4 km 800 pour ce circuit à Buenos Aires.
C'est perdu au fond de la Pampa. Hein,
exactement.
Je confirme.
Et du coup, ça peut nous offrir du spectacle, puisque la pluie est attendue à l'heure du Grand Prix. Ça va pouvoir changer les stratégies. On en reparlera. Ce qu'on peut retenir de la qualif d'hier, c'est la nouvelle pole de Marc Marquez. 53e pole de sa carrière. Il se rapproche du record de Rossi, hein, qui est à 55 poles. C'est un peu le Lewis Hamilton du MotoGP. Marc Marquez, donc très bonne pole pour lui. Il a fait 6 participations en Argentine, Marc Marquez. 5 poles, seulement 2 victoires. Il a du mal à aller au bout de ce Grand Prix d'Argentine. Il y en a un autre qui a beaucoup de mal, c'est Andrea Dovizioso, qui a eu un week-end un peu compliqué, qui a remporté le premier Grand Prix du Qatar, on l'a rappelé souvent dans Motors, qui sera tout de même en première ligne, mais qui partira troisième. La première ligne, c'est Marquez devant Vinales et donc Dovizioso. Deuxième ligne, Valentino Rossi, qui est là et qui adore la pluie, donc ça peut être intéressant pour le Grand Prix, devant Miller et Morbidelli. Et la troisième ligne, Fabio Quartararo, qui partira septième de ce Grand Prix. Encore une qualif réussie pour le jeune pilote français. Donc Quartararo qui sera juste devant Crutchlow et Nakagami. On a un petit regret pour Johan Zarco qui avait fait deuxième l'an passé avec sa moto Yamaha. Il a beaucoup de mal depuis qu'il est arrivé chez KTM. Il est 18e. Alors j'ai regardé la qualif hier. Il fallait voir son visage à la fin de la Q1. Il était totalement dépité. Il ne comprend pas ce qui ne fonctionne pas. Il a beaucoup de pertes d'adhérence dans les virages. Et en tout cas, il ne trouve pas la solution pour l'instant pour régler sa machine.
Alors j'ai eu l'occasion de discuter assez longuement lors de la présentation du Grand Prix de France qui aura lieu, donc comme vous le savez, bientôt au mois de mai sur le circuit du Mans. Et donc alors on commence par Fabio puisque c'est lui sur lequel les projecteurs. C'est ce qui est étonnant. Je retrouve un peu une ambiance, c'est une fraîcheur incroyable. C'est-à-dire que là, il comprend pas ce qui lui arrive, mais dans le bon sens du terme, il travaille sérieusement, il est à l'aise sur la machine, il s'entend bien avec son ingénieur, il sent bien la machine, il exploite les pneumatiques, puisque on en parle également hors antenne. Faut savoir que c'est même pas la surface d'un pouce que les pilotes ont au sol avec la gomme. Il y a
une pièce de 2 euros. Faut se rendre compte, hein, un peu.
300 chevaux maintenant dans une machine.
Ils tiennent sur une pièce de 2 euros.
Et souvent sur une roue, puisque le deuxième point d'appui maintenant, c'est plus l'avant, c'est de plus en plus le genou évidemment, mais voir le coude, le coude pour Marquez. Donc ce sont des équilibristes fabuleux.
Des grands malades. Ouais.
Et donc j'en reviens à Fabio qui est à l'aise. Alors j'en ai parlé avec lui, j'ai dit mais de toute façon ton format des débuts on le savait quand tu roulais en moto 3, il dit oui j'étais obligé de tout rentrer parce qu'il est grand, il est longiligne. Même sur la moto 2 il était moins à l'aise et là il est comme un poisson dans l'eau quoi. Il se sent bien, la machine est performante, la Yamaha, puisque à plusieurs reprises c'était lui le pilote Yamaha le plus rapide en essai libre devant Rossi et
et Vinales qui est incroyable. Là, il rentre encore dans le top 10. Il y a une très belle course à jouer. Là, je peux vous dire qu'il rattrape pas son départ.
Parce faut que pas qu'il
parle sur la grille. J'en ai parlé avec lui quand on l'a vu arrêter. On s'est dit, voilà. Il y a un problème technique. Je lui dis, c'est l'embrayé. Il me dit, non, c'est moi, j'ai merdé.
Okay. Il a dit qu'il avait pas entendu son moteur, en fait. C'est une erreur.
Non, là, je peux vous dire que là, le départ,
ça arrive une fois, ça lui arrivera pas deux fois. D'accord, a priori.
Quant à Johan, d'un mot, ou
bien
de deux,
sûr,
si je peux, de
trois même, trois.
Allez, trois. Bah, c'est du travail à long terme. Alors effectivement, c'est un travailleur, Johan, il savait que le pari était audacieux. Il a un contrat déjà pour deux saisons, pour démarrer avec KTM. KTM a gagné toutes les catégories, je le répète tout le temps, auxquelles la marque a participé, quel que soit le domaine, motocross, enduro, le Dakar, tout ce que vous voulez. Donc effectivement, là, c'est de la vitesse. Il n'y a pas de raison que ça finisse pas par marcher. Il y a des moyens considérables. Maintenant, Johan, clairement, c'est l'avant qui sent pas trop, voilà, parce que ça c'est la clé.
Exactement.
Un pilote moto, quand il ne sent pas son train avant, il peut rien faire. Alors on a dit chez KTM, peut-être un peu tôt, qu'on ne voulait pas changer parce que le châssis est différent, c'est un châssis tubulaire contrairement aux autres châssis qui sont monocoques, etc. Est-ce que ça vient de là? J'en sais rien non plus. Johan ne sait pas non plus. Il travaille, mais il faudra du temps.
Est-ce qu'en moto, comme en Formule 1, les gars, on peut prendre un petit peu de temps pour apprivoiser sa machine? Est-ce qu'on peut comparer les situations, par exemple, de Johan Zarco et de Pierre Gasly, en débarquant dans une équipe qui est plus forte que celle qui les accueillait auparavant, et avec laquelle il y a un peu d'adaptation qui doit se faire?
Alors, je suis pas un motard, personnellement, mais je trouve qu'ils sont impressionnants parce que tout simplement pour aller chercher la limite avec une moto, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec une voiture.
Oui.
Sur quatre roues, quand on fait une erreur, on se retrouve hors piste, on a un petit coup de survirage et puis voilà, on se rattrape, on casse pas forcément l'auto et puis on se fait pas forcément mal. Pour arriver à la limite sur deux roues, déjà la carrosserie, c'est le pilote, c'est soi-même, et puis en plus de ça, quand on fait une erreur, quand on y est à la limite trop rapidement, on est par terre. Donc forcément, le travail il est un peu différent. On est obligé, je pense, d'y aller step by step. Et un pilote comme, c'est pour ça qu'un pilote comme Marquez est super impressionnant, c'est qu'on le voit lui dépasser la limite par moment. Sans pour autant tomber. On le voit carrément en caméra embarquée, par moment on pense qu'il est par terre, et puis il se sort toujours de situations incroyables.
Alors juste pour rebondir sur ce que disait Adrien, tout est vrai bien sûr, Marquez il a une approche différente, c'est-à-dire que lui notamment aux essais, il va chercher l'adhérence de ce train avant, et il va même au-delà, pour voir, ah elle est là, ça y est il l'a trouvée. Donc après il ne ferait plus ces erreurs-là, mais il arrive à chuter deux fois par week-end de Grand Prix. Alors à l'inverse, et c'est à mettre à l'actif évidemment de Fabio et surtout de Johan qui n'est pas à l'aise, il ne chute pas parce que les deux dans le passé se sont blessés, surtout Fabio, donc c'est tellement handicapant, on est en début de saison, il faut laisser un peu de temps au temps. Je sais qu'on est tous impatients,
bien sûr,
mais il faut leur laisser un peu de temps. Alors Fabio là, le but ça va être d'être dans le top 10, en partant 7e, normalement ça devrait pouvoir le faire, hein. Surtout qu'il va avoir les deux leaders de Yamaha devant, et je pense que là il y a beaucoup à jouer. Quant à Johan, lui il l'a dit, l'objectif c'est le top 10, c'est de rentrer dans les 10 premiers, déjà de rentrer dans les points, on va commencer par là, être au moins 15e.
Benoît, encore un mot.
La seule petite pression qu'a Johan Zarco sur les épaules, c'est que son coéquipier fait mieux pour l'instant.
Oui.
Paul Espargaro est 11e sur la grille, c'est pas du tout le même style de pilotage, on rappelle, hein, Johan Zarco adore les belles courbes, etc. C'est plutôt un pilote, un puriste voilà, de la trajectoire, alors que Espargaro se rapproche un petit peu plus du style de Marquez, c'est plus un casse-cou qui va aller chercher tous les risques possibles. Mais pour l'instant, c'est ce qui pourrait mettre beaucoup plus de pression sur les épaules de Zarco, qui est attendu chez KTM. Mais si son coéquipier fait beaucoup mieux, là, il y aura de la pression sur ses épaules.
C'est que le deuxième Grand Prix.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Le départ de ce Grand Prix, Benoît,
19h.
19h tout à l'heure,
juste après le Grand Prix
d'Argentine, juste après le Grand Prix de Formule 1. Deux événements à venir donc, et un qui s'est terminé il y a quelques minutes à peine. Ça se passe en Corse, et c'est le Rallye de Corse. Bonjour Aurélien Tiersin.
Bonjour à tous.
Envoyé spécial RMC Sport sur l'île de beauté. L'épreuve est donc terminée.
Oui, ça y est, c'est terminé. Victoire du Belge Thierry Neuville, qui a profité dans le Power Stage, la 14e et dernière spéciale de ce rallye de Corse, de la crevaison Delphine Evans, le gallois de 30 ans chez Ford, qui a fait une spéciale extraordinaire ce matin, notamment en mettant 10 secondes dans les yeux de Thierry Neuville, et il a crevé dans la 14e spéciale. Donc le Belge est vainqueur de ce rallye. Et Sébastien Ogier, le septuple champion du monde, qui était troisième depuis hier soir et après avoir dépassé l'Espagnol Dani Sordo, et qui, avec tout ça, après une première journée compliquée pour Sébastien Ogier, des réglages pas très bien trouvés, des problèmes de sous-virage et puis un tête-à-queue dans la toute première spéciale, Sébastien Ogier, qui parvient malgré tout à se classer deuxième de ce rallye. Pour l'autre Français, Sébastien Loeb, il termine huitième. Sébastien Loeb, âgé de 45 ans, chez Hyundai, désormais avec sa I20. Et au championnat du monde, compte désormais 80 points. Derrière Thierry Neuville, 82 points. L'Estonien Ottana, qui a également crevé hier, lui, est un petit peu en retrait, mais avec 77 points. La course au titre est toujours très très belle entre donc l'Estonien Ottana, Sébastien Ogier et Thierry Neuville.
On va écouter Sébastien Loeb. Tu l'as rencontré, Aurélien Tirsin, et il a connu un week-end compliqué.
Bah, de toute façon, les espoirs du début du rallye se sont vite effondrés, hein, au bout de 10 bornes. Hein. Donc après, c'était plus la même course, hein, mais c'est sûr que j'espérais faire forcément mieux que... Que huitième, hein, mais bon après, il me manque ouais de la, du roulage, je pense, un peu d'être dans le rythme tout le temps. Ça roule très très vite parce que, comme je disais depuis un moment avec les vidéos, les mecs, c'est au par cœur. Il n'y a plus d'improvisation en fait dans le pilotage. C'est vraiment de la trajectoire, du freinage. Il faut être parfait partout, quoi. Et c'est un peu une autre façon de rouler de ce qu'on a connu avant.
Toujours cet enthousiasme inimitable, hein, et cette bonhomie chez Sébastien Loeb, vraiment.
Surtout quand il termine.
Ah oui, ça. Quand il perd, il est toujours délicieux. Quand même, pour l'autre Sébastien Ogier, après les difficultés dont parlait Aurélien il y a quelques minutes, qu'il a connu. C'est un moindre mal finalement cette deuxième place.
Écoute, il s'en sort très très bien, mais ça c'est pareil en course. Hein, c'est là qu'on voit le métier. On n'est pas là non plus six fois champion du monde des rallyes pour rien avec Julien Ingrassia. Ils s'affolent jamais et ils sont repartis. Ils étaient sixième de mémoire au plus mal dans ce rallye. C'est le rallye aux 1000 virages, on le rappelle, le Tour de Corse. Donc c'est un rallye extrêmement éprouvant, extrêmement difficile, extrêmement dangereux aussi. Et ils ont su ménager. Et puis bon, il y a eu les malheurs des autres, mais ça veut dire qu'eux ont commis moins d'erreurs parce que les crevaisons, on a un peu peine pour Elfyn Evans qui est méconnu mais qui est un super pilote qui a pas le succès qu'il mérite, et puis Ottanak, ben il en fait toujours une petite boulette.
Exactement.
Donc là on a trois pilotes quand même, enfin trois équipages pardon, en 5 points, hein. C'est génial.
Il faut rappeler qu'une crevaison c'est pas forcément le hasard, hein. Coller 10 secondes à Thierry Neuville sur une spéciale, c'est que on en met un peu beaucoup,
et
les cordes voilà, et les cordes quand on les prend un peu trop voilà.
Il y a pas de secret.
Et juste ce qui est extraordinaire, moi je trouve, c'est que c'est encore une nouvelle voiture pour Sébastien Ogier. Il a gagné avec deux voitures différentes. Là, quatrième rallye, il est deuxième au classement du championnat du monde à 2 points du leader.
Ça prouve il roule avec sa tête.
Une science du pilotage et une expérience.
Et c'est comme ça qu'on gagne des championnats, justement. On vise le championnat. Là, il savait qu'il pouvait vraisemblablement pas gagner. Il était à 40-45 secondes. On les reprend pas à la régulière. Donc, il s'est dit, là, pour lui, il était 3. Et puis, les autres ont commis des erreurs, pas lui. Donc,
il fait 2 victoires, une deuxième place, quand même. Depuis le début de la saison.
Alors, c'est chaud.
Merci Aurélien Tirsin d'avoir été avec nous. En direct de Corse, on rappelle donc la victoire de Thierry Neuville et la deuxième place de Sébastien Ogier sur ce Tour de Corse. Merci Adri. Merci Jean-Luc,
merci,
à
messieurs.
Tout à l'heure.
Merci.
17h10 pour le Grand Prix de Bahreïn. Merci Benoît, tu seras avec nous tout au long de l'après-midi.
Évidemment.
Également. Dans l'intégral sport.